finalement. Osée, chapitre 1, nous allons lire les 5 premiers versets. Disons pour la gloire de notre Seigneur. Parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Ahaz, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Début du message de l'Éternel transmis par Osée. L'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en abandonnant l'Éternel. » Il alla et prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jizréel, car encore un peu de temps, et j'interviendrai contre la maison de Jéhu à cause du sang versé à Jizréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, il arrivera que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. » Parole du Seigneur. Amen. Donc on peut voir qu'à partir du premier verset, Osée, fils de Béri, est l'auteur de cette prophétie. Donc, en hébreu, Osée signifie « salut » et c'est aussi le nom du dernier roi d'Israël. Donc, comme on peut lire 2 Rois 17, verset 1, « La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. » Et donc, le ministère d'Osée couvre plusieurs décennies de la seconde moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, donc des années 790 à 739 avant Jésus-Christ. Il s'est poursuivi sous le règne de 4 rois de Juda, donc que sont Ozias, Jotham, Akaz et Ézéchias. Et donc comme la prophétie d'Osée était principalement destinée à Israël, il peut paraître étrange en effet que 4 rois de Juda soient mentionnés dans Osée 1, verset 1, contre un seul roi d'Israël. Donc alors qu'Osée fut témoin de la chute et de la destruction d'Israël et de sa capitale à Samarie, il semble que son souci plutôt se tourna vers le reste du peuple de Jérusalem sous la véritable royauté de la maison de David. Et donc le contenu d'Osée suggère que ses écrits furent rassemblés à Jérusalem. Le ministère personnel d'Osée était au nord. Le public principal de son livre était le peuple de ce royaume du sud qui était Juda, le royaume de Juda. Donc les règnes des rois cités dans Osée 1 verset 1 forment, disons, la matière de 2 chroniques des chapitres 26 au chapitre 32 que je ne veux pas vous lire, que je vous invite à découvrir, mais c'est ça. Donc la matière se trouve dans 2 chroniques 26, des chapitres 26 au chapitre 32. Osée a commencé son ministère vers la fin d'une période de succès militaire et de prospérité aussi bien pour Israël que pour Juda. Donc on peut les voir dans 2 chroniques 26, donc les versets 6 à 15, et aussi dans 2 rois 14, 25 à 28, je peux lire 2 rois 14, 25 à 28, où nous lisons, « Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittaï, de Gath-Hépher. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvait réduit esclave et homme libre sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessus les cieux et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, les exploits à la guerre et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël Damas et Hamath qui avaient appartenu à Juda. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Donc on peut voir qu'il y avait une période faste à ce moment-là pour ces royaumes d'Israël et les royaumes de Juda. Donc au cours de la première moitié du 8e siècle, l'influence assyrienne avait décliné à l'ouest des frontières tout en favorisant l'épanouissement des royaumes d'Israël et des royaumes de Juda. Donc Jéroboam II pour le roi d'Israël et le roi Ozias pour le royaume de Juda. Et la situation allait bientôt changer. Comme l'avait annoncé Osée, l'empire d'Assyrie où régnait Tiglath-Pileser III allait reprendre sa politique d'expansion vers l'ouest. Donc, fondateur de l'empire assyrien, donc Tiglath-Pileser avait une politique d'expansion où il essayait d'annexer. Donc, il a annexé la Syrie, il allait même annexer Israël et ensuite le royaume de Juda. Et donc, Akaz, qui était le roi de Juda, qui était impressionnable et sans force de caractère, céda facilement au prestige des Assyriens. Donc, il était ébloui par leur rite, par leur religion. Il en est même arrivé à prendre ses coutumes, à les instaurer au royaume de Juda. Donc, en 732, Akaz, roi de Juda, se rendit à Damas pour jurer hommage à Tiglath-Pileser. Prenant goût à leur rite, et il construit à Jérusalem un autel de la même, disons de la même sorte qu'il avait vu du côté de la Syrie. Quand je parle d'Assyrie, c'est pas la Syrie, Assyrie, le royaume d'Assyrie. Parce que l'Assyrie aussi avait, disons, annexé la Syrie qui était juste en dessous, en fait, quand ils sont rentrés pour prendre Damas et puis les royaumes de l'Ouest. En 733 et 732 avant Jésus-Christ, le royaume du Nord devint donc un État fantoche. Donc quand on parle d'État fantoche, donc un État sans autonomie qui dépendait de l'État qu'il avait, disons, annexé, donc qui était sous une puissance étrangère. Et donc Juda, ces empires qui étaient annexés, donc étaient sous l'emprise de Pileser et de son autorité. Donc après une tentative de soulèvement, donc Israël, le royaume du Nord fut vaincu en 722 par les Assyriens et Israël fut déporté. Donc on peut le lire dans 2 Rois 17, les versets 1 à 6 et à partir des versets 18. Et Juda devint à son tour un État vassal également. Donc un État vassal, c'est-à-dire subordonné à un autre, donc qui était subordonné à l'État, au royaume d'Assyrie. Et donc, pour bien saisir la portée du message de la prophétie d'Osée, tout comme celui des autres prophètes mineurs comme Ésaïe, Michée et puis Amos, il nous faut comprendre en effet la théologie et le sens du Deutéronome. Celui-ci fait état d'un pacte d'alliance entre Dieu, le Seigneur et Israël. Le devoir d'Israël était d'être fidèle et loyal au Seigneur. Par un culte qui était exclusif et par une obéissance totale. Et ce qui amènerait des bénédictions. Donc on va le voir, les bénédictions dans Deutéronome 28, 1 à 14. Donc il y avait des bénédictions matérielles, spirituelles. Il y avait aussi la supériorité sur toutes les nations. Et aussi il y avait la désobéissance qui entraînerait en revanche le jugement et l'exil. Éventuel, donc, on le lit dans Deutéronome 28, des versets 15 à 68. Je vous épargne toutes ces lectures, mais je vous donne les références. Donc je pense que c'est... Mais on retrouve le cas dans Deutéronome des bénédictions et des malédictions également. Donc les bénédictions, Deutéronome 28, 1 à 14, et les malédictions, donc Deutéronome 28, 15 à 68. Le rôle d'Osée en tant que prophète consistait à mettre en évidence la violation de l'alliance et l'intention de Dieu de déverser ses malédictions. Simultanément, Osée confirmait la promesse du Deutéronome aussi, quant à l'ultime restauration d'Israël. Donc il n'y avait pas que la malédiction, mais il y avait aussi une promesse de restauration. Donc Deutéronome 30, verset 1 au verset 10. Et donc, les thèmes dominants du message d'Osée peuvent se résumer en trois mots. Donc le péché, le jugement et le salut, restauration. Salut, restauration. En exposant le péché d'Israël, Osée insistait beaucoup sur son idolâtrie. Donc étant donné, il se livrait à des cultes de Baal. Donc c'est ce que Osée dénonçait à cette époque. Donc, il comparait la relation d'alliance entre Dieu et son peuple à un mariage. Donc, Israël, qui était l'épouse du Seigneur. Il traitait Israël d'adultère spirituel. C'est fort quand même. Donc, par rapport à cette alliance avec le Seigneur, et le fait que le peuple d'Israël se soit adonné à des pratiques, donc à enfreindre le premier commandement et même le deuxième commandement de Dieu, en fait, c'était de l'adultère spirituel. Israël s'était tourné vers Baal, donc ce dieu cananéen des tempêtes et de la fertilité, afin de promouvoir la fécondité du sol et de l'homme. Et donc, son message principal était un jugement sur l'idolâtrie et le péché. Et donc, puisque le royaume du sud suivait les traces de ses cousins, on peut dire idolâtres, Osée cherchait également à encourager les habitants de Jérusalem à la repentance. Donc, il y avait la condamnation, c'est vrai, mais par son message, il les encourageait à la repentance. Et donc, pour illustrer l'infidélité d'Israël, Osée épousa une femme qui, à l'exemple de la nation, serait infidèle à son mari. Osée dénonce de nombreux péchés que nous allons voir à travers les serments et des péchés qui sont toujours, disons, on parle du siècle présent, c'est-à-dire l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, qui sont toujours présents, donc l'arrogance, l'ingratitude spirituelle, les alliances étrangères, les crimes violents et l'hypocrisie religieuse. Et donc, même si la prophétie d'Osée contient quelques exhortations à la repentance, le prophète n'attendait pas forcément d'Israël une réponse positive parce que le jugement d'Israël était inévitable. Ce jugement, il était inévitable parce qu'il s'était adonné à des pratiques que le Seigneur, leur Dieu, ne pouvait pas supporter. Donc, en déversant les malédictions sur Israël, le Seigneur allait provoquer sa stérilité et lui faire subir des invasions militaires, ainsi que l'exil. Donc on le voit avec l'annexion de l'Empire assyrien et l'exil qui s'ensuit par la suite. Dieu n'allait pas abandonner Israël pour autant, mais la sévérité de ses jugements n'était pas moins éducatif et l'objectif du Seigneur était de ramener Israël à lui. C'est vrai qu'il y avait un jugement, mais il y avait une phase de restauration. Et donc le but du Seigneur, c'était que Israël revienne à lui. Et nous remarquons ici que ce livre reflète une démarche totalement positive. Même dans sa structure, où nous allons distinguer, au fil des serments, 5 cycles de jugement et de restauration. Donc, jugement, restauration, et donc le premier, c'est du chapitre 1 des versets 2 à 9 que nous allons voir. Ça, c'est le premier cycle de jugement. Et le premier cycle de restauration aura lieu des chapitres 2 des versets 1 à 3. Donc, verset 2. Une mariée comme Israël pour le prophète Osée. Et nous lisons au verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, Car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Car le pays se prostitue. C'est quand même des mots forts qui sont employés. Car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Le Seigneur ordonna au prophète d'épouser une femme qui s'était souillée en se prostituant. Osée, son épouse Gomère, devait avoir 3 enfants. Et chacun d'eux reçut un nom qui signifiait le jugement divin. Donc, il n'est pas surprenant que de nombreux érudits ou commentateurs doutent. Il y en a qui pensent que c'est une figure de style, que c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu, parce que c'est choquant quand même. Et même de nos jours, de se dire, bon, un pasteur qui va épouser une prostituée, c'était quand même marquant. Donc le mariage rapporté dans Osée 1 est cohérent avec le modèle d'action prophétique, dramatique, que Dieu a dirigé pendant de longues années et auquel les royaumes du nord et du sud d'Israël ont lentement sombré dans la destruction. Par exemple, une génération après Osée, quand nous lisons Ésaïe 20, verset 3, et l'Éternel dit, « De même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et les vieillards nus et déchaussés et le dos découvert à la honte de l'Égypte. » Donc, le prophète Ésaïe a reçu l'ordre pendant 3 ans de marcher nu et pieds nus tout en prêchant à Jérusalem. Ézéchiel a dû se coucher sur le côté pendant 430 jours pour symboliser le jugement sur la cité de Dieu. Et même pour utiliser ses propres excréments pour du feu, pour sa cuisine. Donc ainsi le modèle de comportement dans lequel s'inscrit le mariage d'Osée a une explication qui est convaincante. Dieu cherchait à attirer l'attention de son peuple. Et ses prophètes étaient, comme on dit, des messagers, des héros, à travers lesquels il criait. Une autre raison pour laquelle nous ne devrions pas être gênés par le mariage d'Osée avec une femme prostituée, c'est que son expérience a été conçue pour mettre en lumière la plus grande histoire d'amour jamais racontée. Car ce prophète fidèle a parlé au nom du Dieu de grâce, qui donne son cœur aimant aux pécheurs afin qu'il puisse nous racheter en tant que peuple pour lui-même et pour sa gloire. C'est un message d'amour pour nous également. Et donc le mariage scandaleux d'Osée sert de type ou de modèle à l'amour que Dieu montre aux pécheurs. Et lorsqu'on lit Éphésiens 5, verset 25, Jésus qui aimait l'Église et qui s'est livré pour son Église, c'est là le modèle d'amour que nous voyons à travers ce récit. Et de nombreux prophètes de l'Ancien Testament ont commencé leur ministère au milieu d'images de gloire. Lorsque nous lisons dans 2 Rois 2, verset 11, Élisée a été témoin de l'emport d'Élie au ciel sur un char de feu. Ésaïe 6, verset 3, Ésaïe entendit les séraphins crier « Saint, Saint, Saint !» Et Jérémie entendit les paroles émouvantes dans Jérémie 1, verset 5, « Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais. » Un prophète était appelé à annoncer la parole de Dieu à sa génération. et dans certains cas à mettre en pratique le message de Dieu. C'était ce dernier conseil d'Osée. Mais les paroles de son appel n'étaient pas si évidentes. Nous lisons, lorsque l'Éternel parla pour la première fois, par l'intermédiaire d'Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends-toi une femme prostituée et aie des enfants de prostitution. » Donc des questions sont soulevées sur l'état réel de la femme qu'Osée allait épouser. Elle s'appelait Gomer, c'était la fille de Diblaïm, comme on le lit au verset 3. Et dans la culture de l'ancien Israël, une prostituée n'avait aucune chance de se trouver un mari. Aucune chance de se trouver un mari. Elle n'avait pratiquement pas d'autre moyen de subvenir à ses besoins que dans ce qu'on appelle de notre temps le commerce du sexe, donc la prostitution. Donc elle ne pouvait pas se marier, elle ne pouvait pas subvenir à ses besoins qu'à travers le commerce du sexe. Le texte parle clairement de ce qui était au temps d'Osée et devrait être encore aujourd'hui une situation qui est scandaleuse et qui est honteuse de nos jours. C'est vrai qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, avec tous les mouvements que nous voyons, c'est pas grave d'épouser une prostituée, ainsi de suite. C'est légitime. On vote des lois pour légaliser la prostitution et mettre même se dire, bon, elles vont payer des impôts, que c'est devenu légal. Mais aux yeux de Dieu, ça n'a pas de légitimité. Ayant été appelé prophète, il devait alors organiser un mariage au cours duquel il prendrait pour épouse une prostituée, un prophète. Et donc, il n'est pas possible qu'un événement comme celui-ci ne reçoive pas l'attention du public. Donc, Osée le prophète qui allait épouser une prostituée. Mais c'est ce que voulait le Seigneur. Le Seigneur voulait attirer l'attention des gens. Le mariage d'Osée contenait un message pour le peuple, car le pays, et là je prends la version du semeur, car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. Se vautrer, c'est-à-dire, c'est un laisser-aller total, complet, à nos désirs, à des mauvais penchants. Donc les gens sûrement chuchotaient, les gens riaient. Les gens étaient abasourdis et donc exprimant leur mépris et leur jugement sur cette femme qui était prostituée. Et donc en commençant par Osée, les prophètes du 8e au 6e siècle employaient fréquemment l'image de la prostitution pour décrire l'infidélité de l'alliance du peuple de Dieu qui adorait des idoles. Et donc, cette violation de la loi de Dieu a commencé dès la création du royaume du Nord, lorsque Jéroboam Ier, fondateur d'Israël, a érigé des veaux d'or. Tout a commencé à ce moment-là. Et nous devrions probablement considérer les idoles de Jéroboam comme des violations du deuxième commandement, interdisant le faux culte, puisqu'il a probablement offert ses veaux d'or en concurrence au culte sur le mont Sion, comme nous le lisons dans 1 roi 12, les versets 25 à 30. Et il n'est cependant pas surprenant que les violations du deuxième commandement aient conduit à des violations du premier commandement à travers le culte de faux dieux, alors que le peuple se tournait vers Baal, adoré par ses voisins qui étaient païens. Et donc, aux yeux de Dieu, cette apostasie impliquait le respect du lien d'amour qui était sans alliance. Comme une femme qui commet un adultère envers son mari. Donc le peuple d'Israël a été infidèle à cette alliance, n'a pas respecté son alliance. C'est un peu comme dans le mariage, lorsqu'on jure fidélité jusqu'à la vie ou à la mort. Donc à un moment donné, lorsqu'on se retire, lorsqu'on désobéit à cette alliance, et nous commettons ce qu'on appelle l'adultère. Et donc Osée prononce plus tard l'accusation dans Osée, chapitre 4, les versets 12 à 13, que nous allons lire. « Mon peuple consulte son bois. » Osée 4, 12 à 13. « Mon peuple consulte son bois, et c'est son battant qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. » Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, ils brûlent de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébintes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Le péché des Israélites impliquait non seulement de donner leur amour à de faux dieux, mais aussi leur incapacité à donner la pleine confiance au Seigneur, à donner leur loyauté à ce Dieu de l'Alliance. Puisque le pays était l'héritage promis par Dieu aux enfants d'Abraham, dans Genèse 15, 18 à 21, leur pollution du pays par l'idolâtrie était pratiquement irritante pour le Seigneur. Non seulement la femme d'Osée était une prostituée, mais leurs enfants supportèrent ainsi sa disgrâce. Parce que nous lisons dans Osée 1, verset 2, « Et auront des enfants de prostitution. » Cela ne veut pas dire que ces enfants étaient illégitimes. Non, c'était les enfants d'Osée. Et c'était les enfants de Gomer. Ils étaient la progéniture d'Osée, tout comme le peuple d'Israël était la famille légitime de Dieu. Au contraire, de même que ces enfants partageaient la honte de leur mère, les habitants d'Israël méritaient également la disgrâce de la nation. Les enfants d'Osée portaient le stigmate de l'immoralité, mais les gens eux-mêmes étaient dans un sens comme leur mère, Israël. Et donc le spectacle d'un prophète épousant une prostituée était choquant. Mais lorsque les auditeurs d'Osée apprirent qu'il représentait le Seigneur dans sa relation d'alliance avec Israël, le scandale fut encore plus stupéfiant. Un représentant du Seigneur, un prophète, qui va épouser une prostituée. Donc, toute l'attention était là. Toute l'attention était là. Et c'est exactement ce que le Seigneur voulait. Et donc, la comparaison entre Gomer et Israël aurait dû amener le peuple à une honte pénitente. Dieu n'allait pas abandonner Israël pour autant. Non. Mais la sévérité de ces jugements n'était pas moins éducatif que l'objectif du Seigneur était de ramener son peuple à lui. Il voulait les punir, c'est vrai, mais il aime son peuple. Et son désir, c'était que son peuple se repente et revienne à lui. Et donc nous remarquons, je crois que je me suis trompé dans mon livre. Pardon. Je suis trompé dans mes notes. Donc je disais, la comparaison entre Gomer et Israël aurait dû emmener le peuple à une honte pénitente, comme une femme découverte en train de tromper son mari honorable. donc son mari qui lui faisait honneur, et sa femme qui a été découverte en plein adultère. Et donc, loin de déshonorer le Seigneur, ce scénario a été conçu pour montrer sa fidélité, la fidélité du Seigneur envers son peuple. Parce que c'est sa fidélité, lui, en tant que Seigneur, parce qu'il souffre. Il souffre de voir son peuple se vautrer dans de tels péchés. Et donc le prophète est appelé à imager Yahweh en épousant une femme qui lui brisera le cœur. Il veut punir sa femme infidèle, mais il l'aime toujours. Et il veut la reprendre. Il aime toujours son épouse et il veut la reprendre. Comme nous l'apprend Osée, Dieu n'hésite pas à accuser son peuple pour leur idolâtrie, mais il les aime toujours, même quand ils pêchent. Et il veut qu'ils reviennent à lui. Il veut les reconquérir. Mon troisième point, un fils nommé Jézréel, qui veut dire dans le sens que nous allons l'aborder comme effusion de sang. Donc ça, c'était, disons, une prophétie aussi sur la maison de Jéhu. Et donc, si les interactions entre Osée et son épouse infidèle occupent une place centrale dans cette histoire, les enfants de leur union jouent aussi un rôle prophétique à travers les noms qu'ils portent. Ayant été appelé par le Seigneur à épouser une prostituée, Osée n'a pas retenu son amour. Dans le verset 3, il alla donc prendre Gomer, la fille de Diblaïm, et elle conçut et lui enfanta un fils. Donc il fit exactement ce que le Seigneur lui demandait. Osée et Gomer auraient 3 enfants, chacun recevant un an symbolique de jugement. Quand le premier naquit, l'Éternel lui dit, appelle-le, au verset 4, du nom de Jézréel. Jézréel. Pourquoi Jézréel? Jézréel était une ville du nord d'Israël. Et c'était aussi le nom d'une vallée stratégique dans laquelle un certain nombre d'événements importants avaient déjà eu lieu. Donc il y avait des victoires du peuple d'Israël. Ça, c'est la partie positive. Donc, de manière positive, Gédéon avait vaincu les Madianites dans la vallée de Jézréel. Donc, nous lisons dans Juges 6, verset 33. Et il est notoire que Jézréel était l'endroit où le juste Naboth s'est fait voler sa vigne et a été mis à mort par l'intermédiaire des méchants. Donc, 1 Roi 21, des versets 1 à 16. Et donc, à partir de ce moment, Jézréel serait associé à l'effusion de sang et à une totale violence. Lorsque le Seigneur oint Jéhu, donc ça c'est dans 2 Rois 9, 10, chef de la dynastie d'Israël, il lui ordonna d'aller à Jézréel et de mettre Jézabel à mort. Donc, comme on lit dans 2 Rois 9, 10, les chiens mangeront Jézabel dans le camp de Jézréel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Donc Jéhu tua également les 70 fils d'Akab et en lui apporta leur tête à Jézréel. 2 Rois 10, verset 7. Et toujours Jéhu tua ensuite tout ce qui restait à la maison d'Akab à Jézréel. 2 Rois 10, verset 11. Et il assassina aussi de nombreux parents du roi Amatsa de Juda, qui étaient là en visite à Jézabel, au verset 14. Donc, on peut voir que cette ville était le récit d'histoires sordides, d'assassinats, d'effusions de sang. Et donc, vous pouvez imaginer que vous avez un enfant que vous appelez Tchernobyl, par exemple, avec ce qui s'est passé en Russie, ou bien Auschwitz. Mais cet enfant-là s'appelait Jézréel. Effusion qui symbolisait tous ces assassinats et tous ces effusions de sang. Le prophète a fait de son nom une prophétie spécifique. Dans Osée 1, verset 4, « Car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jézréel. » Et donc, puisque Jéhu avait tué Jézabel à cet endroit précis, en plus d'avoir tué plutôt son fils, le roi Joram, nous pourrions facilement conclure que Dieu allait juger sa maison pour ce péché. Osée a prédit que le châtiment de la maison de Jéhu aurait lieu dans peu de temps. Donc, toujours dans Osée 1, verset 4, et c'est ce qui s'est produit. Et donc, probablement peu de temps après avoir prononcé cette prophétie, Jéroboam II mourut à la fin de son long règne. Son fils Zacharie monta sur le trône, mais 6 mois plus tard seulement, il fut assassiné par un général nommé Shalum qui régna après lui. Nous le lirons dans 2 Rois 15, verset 10. Et donc cet événement a non seulement accompli la prophétie d'Osée en mettant fin à la dynastie de Jéhu, mais a également marqué le début d'une période chaotique où une succession de chefs militaires sont arrivés au pouvoir grâce à la mort de leur prédécesseur. Osée a prophétisé non seulement la fin de la lignée de Jéhu, mais aussi la fin du royaume du Nord dans son ensemble. Nous lisons dans les versets 4 à 5, « Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jézréel. » Et donc cela constitue la principale prédiction faite par Osée, qui s'est réalisée lorsque Tiglath-Pileser III a revigoré l'armée assyrienne et a commencé ses différentes annexions. Et au cours des 25 années suivantes, a réduit le royaume du Nord et y a finalement mis fin. Ici, la maison d'Israël fait référence à l'ensemble de la nation d'Israël, qui a été soumise au jugement sévère de Dieu à cause de son idolâtrie et sa corruption impénitente. Jézréel était l'une des principales routes d'invasion vers Israël, bordée par des montagnes de Galilée et de Samarie. Et l'histoire nous rapporte que, qu'en 733 avant Jésus-Christ, Tiglath-Pileser III a conquis ces deux régions comme Osée l'avait prédit, en fait, comme Dieu l'avait prédit. Briser l'arc, lorsqu'il dit au verset 5, « En ce jour, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jézréel. » Briser l'arc, c'est un langage typique de malédiction, symbolique d'une défaite totale. Et cela fait allusion à la destruction totale de la puissance militaire d'un pays. On peut le lire dans 1 Samuel 2, verset 4, et comme dans le psaume 46 aussi, verset 10. Donc 1 Samuel 2, verset 4, « L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. » Psaume 46, verset 10, « C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. » Donc, cela symbolique la défaite totale. Et c'est ainsi que la vallée de Jézréel, un site de l'une des plus grandes victoires d'Israël à l'époque de sa fidélité, lorsqu'ils observaient encore la loi, a été le bris complet d'une puissance qui n'existait plus. Cette puissance militaire a été jugée, a été brisée à cause de l'infidélité du peuple d'Israël. Et donc, en conclusion, L'opposition résolue du Seigneur au péché apparaît de manière vive dans ce récit, dans ce livre d'Osée. Notre Dieu a horreur du péché. Notre Dieu a horreur de l'infidélité. Rassasié de sa prospérité et le sens émoussé des plaisirs, parce qu'à un moment donné, il y avait toute cette jouissance à Israël. Et le peuple s'imaginait à peine que ces bons moments-là allaient cesser, que ça allait toujours perdurer dans le temps. Et donc quand Osée commença son ministère, la paix régnait depuis longtemps et aucune menace n'était apparente. Ils ont oublié avec quelle rapidité les événements peuvent devenir incontrôlables lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous ne respectons pas l'alliance, lorsque nous sommes infidèles à la loi de Dieu. Plus important encore, ils ont oublié qu'un Dieu saint règne souverainement dans le temps et dans son histoire. Osée a été envoyé pour leur rappeler non seulement que Dieu observe tous les péchés du monde avec une brûlante indignation, mais surtout qu'il est sûr de punir les péchés gratuits de son peuple par son jugement. Le message d'Osée, qu'Osée apporte au peuple d'Israël, est un message que notre société a besoin d'entendre et que notre société a besoin de s'imprégner. Parce que nous vivons dans un confort extraordinaire. Nous baignons dans le péché. Pour nous, tout devient normal, tout devient une norme. Nous voyons de la prostitution partout et pour nous, ça devient légitime, ça devient légal. Et juste à voir le jour du Seigneur, comment il est utilisé de nos jours. Le jour du Seigneur, c'est le... Maintenant, les commerces sont ouverts, nous travaillons le dimanche. Nous faisons nos activités, nos loisirs le dimanche. L'adoption gratuite de l'indécence sexuelle plonge notre société dans une culture de mort profonde. De mort profonde. Et de mort spirituelle. Et des relations sont brisées. Lorsqu'un péché est mis en surface, péché d'adultère, vous pouvez voir quel type de retombée vit l'Église. Des divisions, des querelles. Le péché entraîne des conséquences désastreuses sur nos vies. Et si nous nous éloignons de plus en plus de Dieu, nous baignerons dans des ennuis terribles pour nos âmes. Quand je parle de l'âme, j'inclus, dans les dichotomes, j'inclus l'esprit et l'âme, et notre corps aussi. Gary Smith, dans son livre d'interprétation des livres prophétiques, met ainsi l'histoire d'Osée dans un message pour notre époque. Soit les gens, il cite, soit les gens sont croyants et sont fidèles à leur engagement envers Dieu, soit ils ne font pas partie de la famille de Dieu. Ceux qui sont infidèles à Dieu sont vraiment comme les prostituées. C'est exactement ce que nous sommes. Nous devrions appliquer l'avertissement d'Osée, donc les cinq premiers versets, spécifiquement au péché de faux culte, c'est-à-dire de l'idolâtrie, qui peut être sous toutes les formes. La plupart des gens prêts à l'admettre que les péchés de notre génération mettraient en avant le huitième commandement, où Dieu interdit le vol, le septième commandement contre l'adultère, et ainsi de suite, ou le fait de ne pas honorer les parents. Mais Osée souligne ici le grand péché de la violation du premier commandement. Le premier commandement. Nous allons lire. Exode 20, je vais lire des versets 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Il continue. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne le serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants. D'où les enfants d'Osée, qui portaient aussi les stigmates de cette relation-là. Je punis la faute des parents sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. C'est une promesse de bénédiction lorsque nous respectons les commandements et lorsque nous marchons droitement avec les commandements du Seigneur. Donc Osée souligne le grand péché de la violation du premier commandement qui interdit l'adoration de faux dieux. Non seulement la plupart de nos pays occidentaux refusent à Dieu l'adoration qui lui mérite, mais ils aggravent également leur sort, leur offense, pour dire, par le culte de l'argent, le culte personnel, l'orgueil, le culte du plaisir, le culte du pouvoir. Et donc l'apostasie de nos pays peut être mesurée à l'immense mesure dans laquelle le jour du Seigneur est consacré. Le jour du Seigneur est devenu un jour de récréation où nous mettons tous nos loisirs là-dedans. Nous faisons tout ce qui n'honore pas notre Seigneur. Comme Dieu a envoyé Osée en Israël, notre génération a besoin de chrétiens qui disent la vérité sur Dieu et qui dénoncent le péché. Qui disent la vérité sur Dieu et dénoncent le péché. Aucun compromis avec le péché. Cela sera souvent inconfortable, tout comme il était difficile pour Osée d'épouser une femme prostituée. Ça ne va pas être facile. Il y aura tout type de jugement. On pourra être éloigné, écarté, des fois rejeté, tout simplement parce qu'on proclame l'Évangile. Pourtant, la Bible montre que malgré toutes leurs difficultés, Dieu n'a pas abandonné ses prophètes. Dieu n'a pas abandonné ses prophètes. Il n'abandonnera pas non plus son Église fidèle si elle proclame sa parole avec vérité. Christ n'abandonnera pas son Église si elle proclame sa vérité, cette vérité avec droiture. Plus encore qu'un avertissement de jugement, notre monde pécheur a besoin de découvrir l'espérance du salut dans la grâce de Dieu. Le ministère d'Osée nous rappelle que même en période de péché, Dieu envoie des messagers comme Osée, dont le nom portait un message signifiant le salut. C'est le Seigneur qui sauve. Thomas Makomiski, dans son commentaire exégétique sur les prophètes mineurs, écrit « La prophétie d'Osée est une tapisserie de grâce. Comme le prophète aimait une femme dont la grossièreté et l'audace ont dû le blesser profondément, alors la grâce de Dieu vient sur son peuple dans son manque d'amour. » L'histoire d'Osée et Gomère se termine avec la restauration d'une femme, même aussi déshonorée, à un rang sacré dans cette relation avec son mari. C'est-à-dire, même si nous avons sombré dans le péché, la grâce de Dieu est suffisamment profonde pour nous élever vers son amour. C'est comme le fils prodigue qui est parti, qui est revenu, et repentant aussi. Et nous savons que Dieu est fidèle et bon pour nous pardonner nos offenses et nous élever vers son amour. Nous avons commencé par nous demander comment un prophète tel qu'Osée pouvait se soumettre au commandement de Dieu d'épouser une femme prostituée. Nous voyons maintenant que la réponse ultime se trouve dans sa volonté divine d'aimer et de se sacrifier pour son épouse. Osée a renoncé aux plaisirs normaux de la vie conjugale afin qu'Israël puisse être rappelé à son fidèle sauveur. Il aurait pu chercher, en fait, il aurait aimé peut-être avoir une femme qui était normale, qui n'avait pas cette réputation. Mais pour le peuple d'Israël, il a mis son confort, ses désirs à côté, pour qu'Israël revienne à son Seigneur. Mais Jésus-Christ portait un amour encore plus fort, qui rendait possible le plus grand sacrifice. Osée n'a pas dû mourir pour Gomère. Osée n'est pas mort pour Gomère. Mais Jésus est mort pour nos péchés, pour que nous ayons la vie éternelle. Il a porté notre culpabilité et notre honte sur la croix afin qu'après avoir acheté son épouse avec son propre sang précieux, nous allons lire dans Tite 2, verset 14, il puisse nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur, tu es saint. Tu es un Dieu fidèle. Tu es plein de bonté, tu es plein de grâce. C'est toi la source de la grâce, Seigneur. Nous n'avons aucune vie, nous n'avons aucune source de grâce, Seigneur, dans nos péchés, dans notre idolâtrie. Mais nous savons que notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux, s'est donné en sacrifice pour nous, qui est mort pour nos péchés afin que nous ayons la vie éternelle. À travers ce récit éternel, nous voyons que tu es un Dieu fidèle, que malgré les péchés de ton peuple, tu aimes ton peuple. Et ton seul désir, c'est que ton peuple se répente de tout son cœur et revienne à toi. Seigneur, merci pour tes promesses. Merci pour tes promesses, pour tes bénédictions, Seigneur. Merci pour Christ qui est mort pour nous sur la croix. C'est vrai que lorsque nous lisons ce récit, ou dans l'Ancienne Alliance, nous voyons ce prophète épouser une prostituée, était choquant pour les gens. Mais nous remarquons aussi qu'au niveau de la Nouvelle Alliance, qu'à partir du sacrifice de Christ, qui s'était donné tout entier pour nos péchés, cela ne s'est plus reproduit. Seigneur, tu as été avec ton peuple du début jusqu'à la fin, Seigneur, et nous te prions d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans notre marche quotidienne, nous avons besoin de toi dans notre vie d'église. Parce que c'est toi qui prends soin de ton église éternelle, c'est toi qui diriges ton église. Quel que soit ce que nous pouvons faire en tant qu'hommes, Seigneur, si nous ne te mettons pas devant, au devant de toutes choses, cela n'aboutira pas. Cela dépendra uniquement de notre volonté, mais pas de la tienne, Seigneur. Pardonne-nous parce que, Seigneur, nous sommes tournés vers notre volonté. Nous sommes tournés vers notre orgueil, Seigneur, vers nos idoles. Donne-nous un cœur afin qu'on puisse s'agenouiller au pied de la croix, demander à ce Dieu Tout-Puissant qui est mort pour nos péchés, de nous diriger tout notre être, de vivre pour Christ, de marcher pour Christ, de mourir pour Christ aussi. Merci pour cette prophétie, Seigneur, qui ne nous parle pas uniquement de restauration, mais qui nous parle aussi de jugement, parce que nous avons besoin d'entendre ces jugements pour nous ramener à l'ordre, Seigneur. Nous avons besoin d'être éduqués par ta parole, Seigneur, de nous rappeler constamment que nous faisons fausse route dans tout ce que nous faisons, et que toi, fidèle, et que toi, notre Dieu, notre berger, tu es rempli de bonté et de grâce, toujours patient à nous accueillir lorsque nous nous repentons et nous venons à toi. Merci Seigneur pour cet amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton alliance. Garde nos cœurs plus que tout, Seigneur, afin qu'on ne pêche pas contre toi, Seigneur. Que nous marchions dans la vérité, que nous marchions dans l'amour, Seigneur. Et que ta parole soit notre arme pour toute situation. Et non notre être pécheur, Seigneur. Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. C'est au nom de ton Fils Jésus, notre Dieu Tout-Puissant, saint et miséricordieux, que j'ai prié. Amen.